Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone au Canada. Nous sommes au 40e Salon du Livre de Montréal avec un programme exceptionnel. Bonjour Montréal! Ah ça c'est de l'ambiance! Merci beaucoup d'être avec nous, comme chaque année, si nombreux ici. C'est un monstre sacré de la littérature canadienne qui est mort cet été. Régent du Charme avait su conquérir le Québec, la France et le monde francophone avec seulement 9 romans en 50 ans. Ses livres sont de véritables écrins, des bijoux drôles et intelligents et très accessibles, bien trop méconnus malheureusement. Bonjour Robert Charlebois.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous ai proposé il y a quelques semaines de venir au Salon des livres de Montréal pour lui rendre hommage. Vous avez tout de suite accepté. Nous voici donc face au public.
Oui.
Pourquoi faut-il lire Régent du Charme, en quelques mots ?
Il faut en parler, en tout cas, parce que ça s'adresse à chacun d'entre nous. Et c'est, si vous cherchez des romans pour savoir qui a volé les bijoux, qui a tué, passez votre chemin, c'est pas ça du tout. On parle d'une aventure langagière et on parle d'un voyage à l'intérieur du cœur en sous-marin. Et ça, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Et pour ça, c'est le champion du monde.
Exact. Régent du Charme a écrit pas mal de chansons, d'ailleurs, de votre répertoire. Nous lui rendrons hommage tout à l'heure avec vous et avec le public. Nous allons faire scintiller ce Salon du Livre. Vous verrez cela tout à l'heure. Robert Charlebois, mesdames et messieurs, que vous pouvez applaudir. Et nous serons aussi avec le Suisse Zep, créateur de Titeuf, pour une performance en direct, là aussi avec le public, surprise, l'écrivain congolais Blaise Ndala qui vit à Ottawa vous parlera lui d'un roman politique qui dénonce la marchandisation de l'humanitaire. Et puis nous recevrons une grande dame du monde du théâtre, Brigitte Henkens, est l'une des références dans ce domaine ici au Canada.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avec nos quatre libraires, bien sûr, des libraires en plateau et en duplex, les deux plus durs, les terreurs des auteurs et éditeurs, sont réunis physiquement aujourd'hui. Jérémy Laniel et Grégoire Courtois, que vous pouvez quand même applaudir. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
J'allais bien avant de se faire traiter de terreur.
Ça y est,
devant toute la francophonie.
C'est ça, n'en faites pas des tonnes quand même. Vous êtes libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Et à côté de vous, surprise, il y a Grégoire Courtois, libraire à Auxerre. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Vous représentez la France, vous êtes libraire dans la librairie Oblique. Et vous êtes ici avec nous à Montréal, invité par Québec Édition.
Tout à fait.
Voilà, bienvenue au Québec Grégoire. On verra comment vous vous tenez tout à l'heure tous les deux. En Suisse, il y a Dominique Bressou de la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dom.
Bonjour Emmanuel.
Je peux vous appeler Dom ?
Mais je vous en prie.
Ben oui. Et en Belgique, c'est la pétillante Déborah Damblon qui est avec nous. Bonjour Deb.
Bonjour Déborah. Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Gilda Routy.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du conseil d'administration du Salon du Livre de Montréal. 40 ans que le salon existe et cela fait 10 ans tout juste que la librairie francophone vient sur ce salon.
Alors on est ravis d'ailleurs que cette émission soit enregistrée au Salon du Livre. C'est très important pour nous.
Voilà, double anniversaire pour vous et pour nous. Racontez-nous un souvenir de ce salon, Gilda. Un moment inattendu, un moment étonnant que vous avez vécu.
Un moment où j'ai dû faire face à beaucoup d'humilité de ma part. Alors, j'avais emprunté la table d'un auteur qui n'était pas là, et donc je me reposais et je vois arriver une horde d'enfants qui se précipitent devant moi et qui me disent « Est-ce que t'es un auteur ?» Je dis « Non, je ne suis pas un auteur. » Et ils sont repartis comme ils étaient arrivés. Et je pense que devant mon expression un peu dépitée, il y en a un qui est revenu, qui m'a tendu un signé, qui m'a dit « Vas-y, signe là. » J'ai signé.
Oui, signé quand même, quoi.
Eh oui, bien sûr, on ne peut pas refuser une demande d'autographe.
Bon, cette année, vous célébrez la mémoire de Régent du Charme également, disparu à la fin de l'été, je le disais. Il n'est jamais venu officiellement au salon car il fuyait toutes les manifestations publiques. Que pouvez-vous dire, vous, aux auditeurs qui ne connaissent pas Régent du Charme? Pourquoi était-il si important au Québec?
Je pense que, comme disait Robert Charlebois tout à l'heure, il y a ces textes qui sont fondamentaux pour la littérature québécoise et il y a le personnage. C'est quand même quelqu'un qui a connu la gloire et qui n'a jamais voulu se montrer. Donc, il y a tout un petit cet aspect de être à la fois hyper célèbre et de ne pas vouloir se montrer, c'est quand même un peu intrigant pour le public de lecteurs. Parce que ce qu'on aime, faut le dire, c'est de rencontrer les auteurs.
Pour ce 40e Salon du Livre de Montréal, vous célébrez aussi Michel Tremblay, fidèle parmi les fidèles, grand habitué de cette émission, à qui vous avez donné le titre de ténor du salon.
Oui, ténor du salon.
Qu'est-ce que c'est un ténor?
Lui n'est pas chanteur, je suis désolée pour votre voisin. Mais Michel Tremblay, quand on va devant sa table, devant les éditions Leméac, il est là. Pour lui, c'est un moment magique, le salon, parce qu'enfin, il rencontre ses lecteurs et enfin, ça lui permet aussi d'avoir une autre façon de lire ses livres.
Il est là à chaque fois, c'est vrai qu'on le voit chaque année. Ouais. Michel Tremblay qui fête ici ses 75 ans avec 75 lecteurs. Ce sera ce dimanche au Salon du Livre de Montréal. Si vous êtes dans les parages, il faut absolument venir. Merci beaucoup Gilda.
Ça me fait plaisir.
Merci d'être là, vous restez un peu avec nous.
Mais oui, volontiers.
Allez, volontiers. Je rappelle que vous êtes la présidente du Salon du Livre de Montréal et cette année, le Salon a 40 ans. Bonjour Zep.
Bonjour.
Un Suisse à Montréal, ça pourrait être le titre d'une BD, voire d'une histoire de Titeuf. Titeuf a un très gros succès ici au Québec, Zep.
Oui, c'est une longue histoire. En fait, je suis venu la première fois il y a exactement 20 ans. Au Salon du Livre 97, et voilà, depuis je reviens régulièrement.
C'est un anniversaire pour tout le monde en fait, là, aujourd'hui.
Ouais. On attend le gâteau.
Hein. Oui, c'est vrai, on n'a pas pensé au gâteau. Bah, vous avez pensé?
Bravo.
On va demander si quelqu'un peut nous amener un gâteau. Le nouvel album de Titeuf, À fond le slip, est sorti à la rentrée. Tout le monde a vu ça dans tous les rayons, partout. Titeuf s'interroge sur l'actualité mondiale, cette fois, avec plusieurs sujets. Titeuf devient un vrai citoyen. Les enfants sont de bons citoyens, Zep?
Qu'est-ce que c'est un bon citoyen?
Ah bah justement.
Tiens. En tout cas, il revendique son droit à être citoyen et je trouve qu'ils ont autant le droit que les adultes d'être des citoyens. C'est peut-être ce qui a changé maintenant par rapport aux générations précédentes. Ouais, Titeuf s'exprime beaucoup. Pour moi, en tant qu'auteur, en tout cas, c'est le personnage qui m'offre le plus de liberté parce qu'un enfant, il a le droit de tout dire. Il a le droit de poser toutes les questions et il n'y a pas de tabou pour un enfant. Donc, il peut aborder les sujets les plus scabreux. D'ailleurs, généralement, c'est les plus scabreux qui vont le plus les intéresser parce qu'ils ont envie de comprendre, ils ont envie de décortiquer.
Le nucléaire, le terrorisme, la fièvre du pouvoir, les migrants, ce sont des sujets difficiles à appréhender. Titeuf a un regard très enfantin et très premier degré, finalement. Et c'est peut-être ça qui dédramatise un peu votre propos, non ?
Oui, il est premier degré parce qu'il réagit, c'est une réaction enfantine, il réagit, alors il y a des choses qui le touchent de près et parfois de plus loin, mais quand il parle des réfugiés, il parle des réfugiés qui ont été accueillis dans son école, on parle de la pornographie sur internet, mais je trouve que ce qu'un enfant a à dire là-dessus est plus pertinent qu'un sociologue qui va essayer de nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Souvent, quand on parle de l'enfance, on a oublié qu'on en a été un soi-même, donc on perd un peu le fil de ce qu'est l'enfance.
Le public va vous poser des questions, Zep, c'est une première à la radio, ils vont se préparer parce qu'on va circuler avec un micro. Avant cela, il y a Déborah Damblon qui est en Belgique, l'une de nos spécialistes BD qui a lu le dernier Titeuf. Alors Déborah, que faut-il en penser ?
Eh bien moi je vous dirais, un Titeuf qui arrive, c'est un peu comme une énième rediffusion de La Grande Vadrouille ou alors de chez nous en Belgique, de Bosseman chez Coppenol. On a l'impression qu'on connaît tout par cœur, qu'on l'a déjà vu mille fois. Et puis, on l'ouvre quand même, et puis on lit un gag, et puis on s'amuse, et puis on les lit tous. Et vous savez, moi, à travers Titeuf, ce que j'adore, c'est que comme lui, il change pas, ben moi j'ai l'impression de rester jeune éternellement.
Eh ben oui, c'est ça, c'est l'objectif. C'est un peu l'objectif de Titeuf. Grégoire Courtois, un mot pour Zep.
Oui, moi je trouve que Zep, une fois de plus, démontre qu'il est un grand penseur de notre temps avec ce À fond le slip, avec une grande belle couverture rose conquérante, À fond le slip, référence
oui,
à Nietzsche, bien
public.
Entendu, vous avez bien compris. Et puis, voilà,
y a référence à Nietzsche.
Bien sûr, oui, Titeuf est pétri de références philosophiques, vous ne vous rendez pas compte, il y a du Chomsky avec la théorie du langage universel, c'est somptueux.
Oui, d'accord, bon, ça va mieux Grégoire. Hein.
Ouais.
Vous êtes fan de Zep en fait, c'est ça ?
Oui, non, c'est très bien.
Ouais. C'est bon. Bon, alors Zep, vous allez ici, même au Salon du Livre de Montréal, renouveler une expérience que vous aviez déjà menée à Genève face à plein d'enfants. J'ai assisté à cela d'ailleurs au Salon du Livre de Genève. Vous allez dessiner en direct, en fonction des questions qu'on va vous poser. Pour la première fois à la radio, des spectateurs vont poser des questions et vous allez les interpréter en dessin. Nous allons décrire évidemment vos dessins. On va faire ça en fil rouge, comme ça, tout au long de l'émission. On commence avec une première question dans le public. Qui veut poser une question à Zep ? Alors, général, hein ? Allez-y, monsieur, oui, avec la chemise bleue.
Juste bonjour.
Bonjour.
Je suis curieux. C'est quoi ça veut dire votre nom, Zep?
Alors c'est quoi? Que veut dire Zep? Ça va? Vous pouvez le dessiner, okay, ça? Merci. Ok, il accepte. Une deuxième question, madame. Voilà, madame. Allez-y.
Alors un petit sujet qu'on n'oserait pas aborder, peut-être, de la part de Zep. Un sujet tabou qu'on aurait peur de chatouiller.
Quel est le sujet tabou pour vous?
Un sujet tabou qu'on aurait peur.
Ça vous va, Zep?
Ouais, ça va.
Très bien. Allez, on vous laisse dessiner. Pendant que vous commencez ces dessins, nous allons accueillir une grande personnalité du théâtre, metteur en scène, directrice artistique du Théâtre français du Centre national des arts d'Ottawa, poste occupé par Wajdi Mouawad, avant elle, une femme engagée, considérée ici au Canada comme une grande référence. Bonjour, Brigitte Henkens.
Bonjour, je me sens engoncée dans une telle présentation, mais bon.
Mais c'est ça, c'est la vérité,
c'est
non?
Bon. C'est ça.
Vous arrivez d'Ottawa, bienvenue dans la librairie francophone. Vous venez de publier un court roman chez Boréal, Un jour je te dirai tout, et l'histoire d'une fulgurance amoureuse. Un livre complètement érotique, Brigitte. Robert Charlebois nous en lira d'ailleurs un extrait tout à l'heure. Avez-vous déjà connu une telle fulgurance?
Ben, malheureusement, non. Ça doit être celle dont on rêve. En fait, je pense que c'est une rencontre. Mais quand j'ai commencé le livre, en fait, j'imaginais pas du tout cette histoire de cette façon-là, parce que j'avais plutôt l'envie d'écrire une relation, disons, plus toxique. Et puis, je me suis découverte dans cette relation. En fait, j'ai découvert cette relation et qui est une relation finalement brève, mais, ouais, mais d'amour, ouais, de totale rencontre, en fait.
Ah oui, ça, c'est sûr, c'est
entre
intense.
Entre deux êtres, ouais, c'est intense.
Alors, la rencontre, c'est important pour vous, Brigitte, parce que votre œuvre au théâtre est très marquée par les fractures humaines, la psychanalyse, l'identité féminine et la notion de rencontre. Ce sont d'ailleurs, vous le dites, les rencontres qui construisent l'humanité. Selon vous, le manque de profondeur des relations aujourd'hui handicape la collectivité et le vivre ensemble?
Mais c'est vrai, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a peur de se coltailler à l'autre. On se réfugie derrière le petit Facebook où on vomit sa haine et son agressivité sans risque, en fait, de se confronter à l'autre être humain. Et moi, je crois qu'il n'y a que de la rencontre que peut naître l'espoir et la vie, en fait.
Alors, c'est vrai que là, on a l'illustration parfaite. Je montre le livre au public. Un jour, je te dirai tout. Et lors d'un voyage, en fait, en Islande, qu'on imagine en Islande, il y a deux personnages, Elisa, qui croise Olaf. Et très vite, en fait, ils ont des rapports intimes. C'est plus qu'un coup de foudre, c'est une évidence.
Oui, c'est ça. En fait, c'est l'inverse des sites de rencontres aujourd'hui. Là, je ne les fréquente pas, mais vous devez sûrement connaître.
Pourquoi moi?
Pas vous, mais le vous exclut le public. Non,
oui.
C'est ça. C'est un vrai... Ils se rencontrent, c'est un vrai coup de foudre, en fait. C'est... Non, c'est une rencontre improbable, mais comme il se produit dans la vie, on a des rencontres, on a des coups de foudre comme ça, aussi bien en fait avec des artistes,
oui,
avec des œuvres, avec des êtres humains. Je suis désolée, Emmanuel.
Non, mais il n'y a pas de souci. Écoutez, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller.
Et donc, c'est ça. On sent que les deux êtres sont blessés, donc en fait, portent avec eux un poids de douleur et de passé qui est lourd à porter, ouais. Mais dans cette rencontre, la rencontre se situe dans la joie totale.
Ouais. Alors, on va lire un extrait, une histoire charnelle, je vous le disais, très érotique. On va vous donner un aperçu avec cet extrait lu par Robert Charlebois, qui est avec nous ici sur ce Salon du Livre de Montréal. Robert, on va glisser sous votre voix, oui, l'ambiance du froid canadien ou islandais. Une ambiance comme ça pour se mettre complètement dans l'ambiance de ce livre, une sorte de blizzard, là. Et voici Brigitte Henkens qui écrit ça. Ça, c'est pas dans le livre. Allez-y.
Il est... Non, je mets de l'ambiance. Oui, il est maintenant à genoux au pied du lit. Son regard en contre-plongée, tel le spectateur ébahi face à l'origine du monde. Il agrippe ses hanches, tire son corps vers lui. Elle glisse sur la couverture moelleuse. Il soulève sa coupe. Brioche à deux têtes, rebondie, bien soufflée, bien dorée. Miam. C'est pas écrit miam. Il les palpe, les pétrit, enfonce ses doigts, tandis que sa langue s'aventure plus profondément au mitant de son corps. Élise se cambre, s'abandonne à sa bouche, pousse des petits cris d'oiseaux exotiques. Voilà. Et ça continue.
Et ça continue.
C'est un peu goujat de faire des commentaires sur le...
Non, mais je suis d'accord
avec quelqu'un d'autre.
Je suis d'accord avec Brigitte. Oui. Trahir ou séduire, mais pas via Internet. Des rencontres
oui,
vraies.
Évidemment.
Et c'est ça qui manque le plus.
Bon, c'est vrai que vous vous emballez pas mal, Brigitte, parce que du coup, on a coupé le reste, hein, parce que le reste, est pas, on ne peut pas le lire comme ça à cette heure-là. Il y a des choses un peu étranges dont je ne peux pas parler ici, mais vous avez beaucoup d'imagination.
Oui, c'est ça. J'imagine des choses improbables. Comme souvent dans les fantasmes, en fait, quand ils se réalisent, c'est jamais aussi bien que l'imagination. Oui.
Mais... Deux libraires ont lu votre roman, Brigitte. La France et la Suisse. Qui choisissez-vous en premier?
Bon, là, c'est la France.
La France, allez. Le moins facile. Grégoire Courtois, allons-y.
Oui, vous avez parlé de l'érotisme. Effectivement, l'érotisme dans le livre, moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un qui était en vacances avec un couple et que ce couple, ben voilà, ça vous arrive parfois peut-être. C'est très gênant, finalement. On ne sait pas trop où se mettre. Et quand ça devient franchement érotique, en littérature, il faut éviter le ridicule. Moi, je trouve qu'on frôlait un petit peu. Et c'est... j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et c'est vrai que c'est un roman qui m'a pas vraiment séduit.
Ah bon, à cause de ça?
Ah, bien sûr.
Trop érotique pour vous?
Bah, disons qu'il n'y avait que de l'érotisme, cette rencontre passe par ça et ça me pose un problème.
T'avais dit, hein,
ah, vous pouvez vous étendre sur le divan, là, on n'en va pas en parler.
Dominique Bressoux, en Suisse, êtes-vous d'accord?
Ah non, pas du tout. Non, moi, j'ai trouvé que c'était une magnifique histoire d'amour. Et en fait, vous isolez les personnages dans une sorte de bulle hors contingence, sans attente respective. Et votre écriture, elle m'a vraiment impressionnée, parce que parvenir à décrire aussi délicatement la force du désir et la sensualité débridée de ce couple, c'est pas donné à tout écrivain.
Vous partagez nos
libraires. Votre libraire ne me pense pas écrivain, donc.
Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Vous avez dit ça, Grégoire?
Non,
j'ai pas. Non, pas du tout, pas du tout. Mais alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets comme ça, beaucoup d'érotisme, mais beaucoup de sujets aussi. Elisa et Olaf ont en eux une part de folie, héritée des drames familiaux. Elle se faisait battre par son père. Lui a vécu l'exil à Montréal de sa famille hongroise, famille qui a péri aussi dans les camps nazis. Enfin, c'est très compliqué pour eux. Et il la prévient d'ailleurs, il lui dit à un moment, il faut que je te dise, je suis fou, j'ai toujours su que ma tête était fêlée.
Oui, c'est ça. Ils sont arrivés, comme je disais, avec leur poids de douleur en eux, le poids de blessures, comme peut-être on a tous. Mais ils les ont abandonnés dans cette rencontre. Et peut-être que c'est une rencontre, comme il en arrive parfois, qui vous sauve, en fait, qui vous empêche d'aller au destin qui vous attend. Et oui, c'est des êtres qui sont malmenés quand même par leur passé, en fait.
Les rencontres sauvent, oui, ça vous est arrivé aussi, ça?
Oui, ouais. Ça je dirais oui, vraiment, ouais. C'est la seule chose à laquelle je crois. Ouais.
Merci beaucoup Brigitte Henkens, merci d'être revenue dans la librairie francophone. Un jour je te dirai tout est paru aux éditions Boréal. Merci Brigitte, à très bientôt.
Merci à vous.
Alors Zep est notre fil rouge aujourd'hui, il dessine des réponses aux questions posées par le public en direct du Salon du Livre de Montréal. La description de vos deux premiers dessins, Zep, avec une question...
Ah, j'en ai fait qu'un.
Ah, un pour les deux questions.
Non, j'ai oublié le deuxième. Pardonnez-moi, je suis confus.
Alors, vous avez fait lequel?
Le premier, c'était d'où venait le nom Zep.
Voilà, donc, oui, alors.
C'est un dessin, donc j'ai écrit, c'était le nom du fanzine que j'ai dessiné au lycée en hommage à Led Zeppelin. Et je fais face à Robert Plant, qui me regarde en disant, je ne vois pas le rapport, alors qu'on se ressemble quand même passablement, à part les cheveux. Et c'est vrai qu'à 14 ans, mon souhait, c'était d'avoir la chevelure de Robert Plant. Ça n'a pas hyper bien marché. J'ai plutôt développé la bande dessinée.
Bon, très bien. Donc la deuxième question, il va falloir la dessiner. Ouais. Quel est le sujet tabou pour vous?
Et en fait, il y en a le seul sujet dont vraiment je n'aime pas qu'on parle, c'est mes cheveux. Donc, mais je peux chercher.
Mais qu'est-ce qu'ils ont vos cheveux, Zep?
Non, ils sont très très bien.
Bah oui.
Parlons d'autre chose. Donc voilà, le dessin est remis au monsieur qui a posé la question.
On va poser une autre question dans le public pour Zep. Allez-y, madame, je vous en prie.
Je ne connais malheureusement pas votre personnage de Titeuf. Est-ce que vous pourriez nous dire quel âge il a?
Okay. Très bien. L'âge de Titeuf en dessin.
L'âge de Titeuf.
Allez, on vous laisse dessiner. Zep, nous allons à présent tous rendre hommage à Régent Ducharme, disparu le 21 août dernier. Robert Charlebois est avec nous pour cette séquence. Nous allons vous faire découvrir et aimer Régent Ducharme si vous ne le connaissez pas encore. Voici un titre de Robert Charlebois, écrit par l'auteur, et on va faire comme en concert. Je vais vous demander d'allumer vos téléphones. Vous avez tous un téléphone sur vous. Alors sortez-les. Avec la petite lampe torche... On va prendre une photo et on la publiera sur les réseaux sociaux. Voici Robert Charlebois et les mots de Régent Ducharme, illuminés par le public du Salon du Livre de Montréal. On écoute et on pense à Régent Ducharme dans la librairie francophone.
Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai chanté à Longueuil, à Vaudreuil, Repentigny, La Valtrie. J'ai rempli des salles, j'en ai vidé aussi. J'ai eu ma part de succès, j'ai eu ma part d'ennui. J'ai eu des bravos, des choux, j'ai eu des demandes spéciales. Strangers in the night, feeling Mexico. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait. Les artistes font jamais de demandes spéciales. Je veux de l'amour. Ah! Je veux de l'amour. Au moment que je le dis, à la place que je suis, je veux de l'amour. J'ai un syndicat, j'ai un agent. L'un marche au tarif, l'autre au pourcent. Les rares comme moi qui marchent au sentiment ne tiennent pas longtemps le coup. Ils viennent fous. Je veux de l'amour au compte-gouttes, à l'appel, à Beyrouth, au bordel, au secours. Je parle à celui qui m'offre un verre quand j'ai déjà bu plus que ma tasse. Je parle à la rousse avec un chandail vert que je sens qu'elle va me faire une pause. Je veux pas de fun, je veux pas de fun, je veux de l'amour. Je veux pas que l'opératrice me renvoie mon petit change quand ça sonne 20 fois pis que ça répond pas. Je veux quand même toute sa vie. Quand un artiste a du succès, il y a du talent, des fans, des contrats. Quand il est dans le trou, qu'est-ce qu'il a? Il a tort, il a honte, puis il a soif. Oh, je veux de l'amour, je veux de l'amour en enfer. Quand je suis sous, sous la table, plus regardable, plus parlable, je veux de l'amour. De l'amour pour moi, puis pour mon chien, qui m'attend toute la nuit dans l'auto. J'en veux aussi pour Luis Mariano, qui valait mieux que Mexico.
Robert Charlebois sur un texte de Régent du Charme. Je veux de l'amour dans la librairie francophone, Robert Charlebois. Quel souvenir gardez-vous de cette interprétation et de cette chanson écrite avec Régent du Charme?
Là, on vient de chanter au seul moment intéressant de la chanson quand il dit je veux de l'amour tout de suite. Tout de suite.
Elle est derrière.
Puis de l'argent pour acheter des cadeaux. C'est le chanteur loser désespéré qui chante dans un bar vide à 4 heures du matin. Moi, je la trouve un peu lente, cette version-là. Je trouve que maintenant, je fais beaucoup mieux avec le même texte. Mais c'est ça, Régent. Les souvenirs que je garde de ça, c'est que je me disais, quand je passais des journées avec lui, parce qu'on a fait quand même une trentaine de chansons, je lisais ses livres, je me disais, comment un gars aussi intelligent peut passer une journée avec moi? Parce que les gens qui écoutent les chansons, ça n'a rien à voir avec ses livres. C'est l'artiste, c'est un homme orchestre, les gens. Comme les gens qui ont vu Les Bons Débarras ou qui ont vu ses pièces de théâtre ou ses dessins, son dernier recueil de dessins, c'est comme un personnage multiple, ses sculptures, c'est trop fou quand il s'appelle Rock Plant. Moi, je pense que ce qui sort de son œuvre, c'est la politesse du désespoir. Et il était très, très poli. Et il n'y a pas que des jeux de mots, il y a plus que des jeux de mots. Par exemple, le coin où nous sommes. Lui, vous parliez de rencontre, Brigitte, tout à l'heure, mais il dirait, je n'ai jamais vu un coïncidence.
Et le mot coïncidence devient au masculin, et c'est ça, les gens du
chant. Ouais, c'est ça.
Moi, je fais des jeux de mots stupides. Mais lui, c'est toujours des phrases. La plus polie de toutes ces phrases désespérées, c'est et maintenant qu'il est mort, elle prend tout son sens. La vie, il n'y a aucun avenir là-dedans. Mm-hmm. Vous devriez investir dans d'autres choses. Alors que la plupart des grands artistes qui se pensent intelligents, puis les écrivains qui écrivent des choses importantes, disent « Ah, là, nos parents nous ont donné la mort en naissant. » Lui, il dit « Non, investissez dans d'autres choses que la vie. Il n'y a pas plus beau que ça. »
Voilà, vous écoutez La Librairie francophone sur RTS La Première, RTBF La Première. Ici, Radio-Canada Première et France Inter. On rend hommage à Régent Ducharme, ici au Salon du Livre de Montréal. Régent Ducharme publie son premier roman, La Vallée des Avalées, en 1966. C'est Gallimard en France et non un éditeur québécois quoi qu'il le publie. Il est sélectionné pour le Goncourt. Tout le monde parle de lui parce qu'il a, vous le disiez, Robert, un style très particulier.
Oui.
Il joue avec les mots. Mmh. C'est très imagé. C'est très inventif. Oui. Et dès 66, finalement, il représente l'esprit de révolte de l'époque de la révolution tranquille des années 60 au Québec.
Oui, oui. Il invente des mots aussi. Et la maison Gallimard lui renvoyait ses manuscrits en disant « Ah, vous devriez écrire ça comme ci, en France on fait ça comme ci, en France on dit ça comme ça. » Heureusement qu'il a tenu son bout, sinon ça aurait été juste un écrivain de plus. Il faut, peut-être que La Vallée des Avalées, c'est un peu lourd à avaler, un premier roman, mais il y a Les Enfants tombent, il y a L'Hiver de force, et c'est un, comme je vous disais, si vous cherchez l'intrigue ou qui a tué, passez votre chemin, c'est pas pour vous. C'est, toute comparaison étant boiteuse, dans les sillons, ou faire un parallèle avec peut-être Sagan ou Le Clésio, qui sont des poètes, qui sont plus des poètes.
Oui.
Et c'est des livres qu'on lit couplets, ben je dis couplets parce que c'est des formations professionnelles, paragraphe par paragraphe, ligne par ligne et parfois mot par mot. Et le balai intrinsèque des mots vaut le détour et on plonge à l'intérieur de nous-mêmes.
Alors, je vais même vous dire mieux parce que moi je pense que Régent Ducharme, c'est Boris Vian en mieux.
On peut dire.
Si vous détestez Boris Vian, vous aimerez Ducharme,
oui.
Car on se rend compte finalement qu'on ne peut pas détester complètement Boris Vian. Et si vous aimez Vian, vous allez adorer Ducharme.
Oui.
Parce qu'il y a cette fantaisie, il y a cet imaginaire et cette confusion parfois même qu'il assume complètement.
Puis c'est drôle ce que Le Clésio n'est pas toujours, mais Le Clésio est le seul écrivain vivant qui a rencontré Régent. Et il mérite maintenant qu'il n'est plus là, que je parle de lui. Mais comment parler de lui, c'est ça.
Alors comment parler de lui en lisant par exemple un extrait de Dévadé. Dévadé, c'est un livre absolument génial. Dévadé, on va lire un extrait de Dévadé. Brigitte Henkens, vous êtes restée avec nous. Je vous laisse rendre hommage aussi à Régent Ducharme.
Mon opinion, chérie, c'est que tu te traiterais mieux si tu étais ton chien. Moi, c'est des rats que je traite bien. Pourquoi pas? On se trompe sur les rats. Ils ont tellement tort qu'on oublie qu'ils sont foncièrement innocents, qu'ils n'ont rien fait pour être des rats. Ça leur est tombé sur la gueule, comme ça. Ils leur ont dit, les petits gars, vous allez tous être des rats, que ça vous chante ou pas. Ça a fini là. Il a fallu qu'ils se démerdent avec ça.
Il y a l'enfance qui est au centre de son œuvre.
L'enfance,
le rejet du monde adulte, qui sont des thèmes qui reviennent souvent. Bon, Jérémy Laniel, notre libraire québécois et fan de Régent Ducharme.
Absolument. Et ce qui est fascinant, à mon avis, avec le décès de Régent Ducharme, c'est qu'on se rend compte que, de par son œuvre, il est parvenu à transcender le réel. Il est parvenu à le célébrer d'une certaine façon. L'importance, à mon avis, du charme dans la littérature québécoise, ben, c'en est une qui parvient à percoler de génération en génération. Et ça, c'est intarissable autant que son génie.
Dominique Bressou est en Suisse. Un mot sur Régent Ducharme, Dominique.
Moi, je dois reconnaître que je ne connaissais pas cet auteur et que la honte soit sur moi. Parce que, avec un petit sondage auprès des grands lecteurs de ma librairie, par contre, je me suis aperçue que j'étais pas la seule. Mmh. Sauf si je parlais de Robert Charlebois. Mmh. Alors, du coup, j'ai dévoré La Vallée des Avalées. Et c'est quand même vraiment dommage que le flot continuel de nouveaux livres, de nouveaux auteurs, noie de tels romans d'une inventivité aussi fulgurante.
Eh oui, c'est vrai que c'est le problème, ça. Hein, ouais. Avec les nouveautés qui arrivent et qui, finalement, dissimulent les classiques. Robert Charlebois, Régent Ducharme, était complètement absent des médias. On n'a que deux photos de lui et aucune interview. Il a laissé planer toute sa vie un grand mystère. Et vous avez dit sur les ondes de Radio-Canada en 2011, c'est un humain, pas un extraterrestre. Même s'il a un comportement d'extraterrestre, il n'est pas fait comme nous autres.
Ben, il était tellement épris de liberté que je crois qu'il ne voulait rien posséder et n'être possédé par personne. Et c'est peut-être pour ça qu'après un travail qu'on a fait pendant 15 ou 20 ans, un jour, il m'a dit, il sentait qu'on, je sais pas, il était un peu on était un peu interdépendants. Il dit, moi je pense qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire ensemble, en joie en tout cas, et paradoxalement, c'est le plus québécois des écrivains.
Comment vous expliquez ce mystère autour de lui? Pourquoi il disparaissait comme ça? Il n'existait pas finalement publiquement,
ben,
jamais.
Il pouvait rencontrer une personne à la fois. Par exemple, si moi, il y avait une voiture dans mon terrain de stationnement, il passait tout droit, mais c'était pas un sauvage. Moi, j'ai joué au tennis avec les gens du charme. J'étais au hockey, au marché aux puces avec lui. Je l'ai même... essayer de faire jouer au golf un jour. Alors, c'est quelqu'un qui fréquentait pas le milieu artistique, mais on pouvait, il rencontrait plein de gens comme les... Si, moi, il me disait, c'est le fun de sortir avec toi parce que toi, t'attires les filles, puis moi, après ça, je les ramasse. et voilà, c'est... On pourrait en parler à l'infini, mais c'était pas un jeu qu'il jouait, c'était... Il pouvait rencontrer une personne à la fois, ou alors, ouais. Il y avait un petit problème d'alcool aussi, avec, qui correspondait bien au mien. Et peut-être que parce qu'un jour, il voyait que pour rencontrer des gens, ou parce que genre, ça m'est arrivé aussi de faire des soirées avec lui, hein, on a bu jusqu'à tomber par terre, puis on lançait des micro-sillons dans la neige, on a fait toutes les folies imaginables, à pied et en auto. Ouais. Et puis un jour, sa femme, Claire, m'appelle, elle me dit, tu sais, les gens ont décidé d'arrêter de boire. Et à partir de ce moment-là, on dirait qu'il a coupé les ponts, mais avec tout le monde. La dernière fois que je l'ai croisé sur la rue, il m'a dit, je ne communique plus avec personne. Donc ça m'a tiré les larmes.
Et puis ça... À cause de l'arrêt d'alcool, alors.
Mais
ça,
non, peut-être pas, j'essaie de comprendre.
Généralement, c'est l'inverse. Que... Ouais.
Mais maintenant alors... qu'il est mort, on peut dire que bon, ça peut pas lui nuire, de toute façon, qu'il a pris un coup solide toute sa vie, comme Boris Vian, tiens, t'en parlais tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. Alors, Robert Lalonde disait de lui, c'est un écorché vif, incapable de communiquer. Quand il m'arrive de le croiser, je sais qu'il ne viendra pas me parler, et moi-même, je m'en révèle incapable. Et pourtant, il vivait en plein Montréal. Il y a la chanteuse Pauline Julien, que vous connaissez, Robert Charlebois, qui a aussi interprété des textes de Régent Ducharme. Elle a confié à un journal français, quand on le croise dans la rue, on a la décence de ne pas le reconnaître.
Voilà. Et c'est la seule ville au monde, Montréal est bénie des cieux, parce qu'il n'y a aucune ville au monde où un écrivain comme ça aurait pu garder son anonymat. Les gens seraient allés faire le pied de grue devant chez lui, essayer d'avoir une photo. Et ici, les gens ont respecté ça. Et merci, Montréal.
Il y a un livre qui est sorti fin août, juste après sa mort, et qui rassemble des dessins réalisés en 1966. Voilà, je l'ai sur la table, l'Actum, avec tous les dessins de Régent Ducharme. Alors, c'est très étonnant parce qu'il envoie les dessins à un éditeur, et à l'éditeur, il lui dit cela. C'est en préface du livre. « Monsieur l'éditeur, veuillez ne pas trouver insolent que je vous soumette ces dessins. Je ne sais pas plus dessiner qu'écrire. Seulement, est-ce qu'il ne suffit pas d'être de la race humaine pour prétendre parler aux êtres humains? J'ai mis toute ma liberté et tout mon amour dans ces dessins. Si vous les jugez sans intérêt, ne me les retournez pas. Offrez-les à une jolie femme de ma part. Vous priez encore de ne pas me trouver insolent, Régent Ducharme. »
Et les dessins sont beaux, mais c'est surtout les titres et puis les blagues qui autour des dessins.
Il y a plein
qui...
de petits textes dedans.
C'est fantastique, fantastique. Et bien, c'était tout lui. Et pour te donner un peu l'idée du personnage, un jour, je chante avec Nanette Workman autour du lac Masson, puis lui habitait Shawbridge à côté de... On était à 10 minutes l'un de l'autre. Alors, il me dit, « Ah, demain, je vais aller voir ton show, je ne l'ai jamais vu. » Je me dis, « Mais Régent, un petit bar, c'était un bar, il y avait 300 personnes, je vais le voir, je vais le reconnaître, puis c'est pas le genre pour se mettre une barbe et tout. » Et le lendemain, je le vois pas. Tu vois, j'ai dit, mais il est pas là. Puis ma femme était là, elle connaît aussi. Elle dit, non, il est pas venu. Le lendemain, il me téléphone en me disant, c'était formidable ton show. J'ai dit, quoi, mais t'étais même pas venu. Il dit, oui, tes éclairages. J'ai dit, le choix des chansons, le montage. Il était resté dans son auto. Il s'était mis en dessous de la fenêtre ouverte du chalet. C'était un bar en bois rond, tu vois. Et lui, il regardait les éclairages au plafond. Et il écoutait les puis il dit, ah, oh, c'était formidable, c'était un des meilleurs shows que j'ai jamais vu de ma vie. Il est resté dans son auto, puis à la fin, vroum, il est parti. C'est pour te donner un peu l'idée de qui étaient les gens.
Robert Charlebois, mesdames et messieurs, ici au Salon du Livre de Montréal, en hommage à Régent Ducharme. Vous pouvez l'applaudir. Robert Charlebois, qui est venu pour vous Pour Régent du Charme aussi.
Oui, pour parler, puis il faut en parler, puis ceux qui l'aiment, écoutez, comme c'est, ça s'adresse à tout le monde. Il ne faut pas s'imaginer que c'est compliqué. Et c'est vrai que les gens qui aiment les chansons n'aimeront pas nécessairement les livres, et l'inverse est vrai. Mais donnez-vous une chance de faire un tour de sous-marin à l'intérieur de vos deux oreilles.
Tous les livres de Régent du Charme sont disponibles en poche chez Folio. Merci beaucoup, Robert Charlebois. Vous restez avec nous. Zep a réalisé pendant cet entretien un dessin avec une question posée. Quelle était la question, Zep? Je ne me souviens pas.
Il était très simple, il fallait donner l'âge de Titeuf.
Ah oui, c'est ça, l'âge de Titeuf.
Il n'a pas pu développer grand-chose.
Oui.
Titeuf est derrière son pupitre d'école et il dit « J'ai 10 ans depuis 25 ans ». Et sa maîtresse lui dit « Silence pendant l'interro ».
Voilà, ça c'est vraiment Titeuf. C'est vrai que c'est ça, c'est l'insolence aussi Titeuf, non?
C'est la tragédie des personnages de bande dessinée, c'est qu'ils ne vieillissent pas. Et que rester dans l'enfance, c'est super pour les lecteurs, mais quand on est enfant, on a surtout envie d'en sortir très vite de l'enfance. Et lui, il n'en sort pas.
Non, mais Titeuf, est-ce qu'il connaît Régent du Charme, Titeuf?
Non, il ne connaît pas Régent du Charme, Titeuf, Robert Charlebois.
Non, mais c'est vrai.
C'est pas possible.
C'est la preuve qu'on peut rester.
Non, mais Picasso, on devrait tous, les enfants, qu'on oublie de demeurer. Mais Picasso dit toute ma vie, j'ai essayé d'être un enfant.
Une question, deux dernières questions du public. Un jeune homme, quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu?
10 ans, je m'appelle Arthur.
Ok, Arthur, allons-y. Quelle question veux-tu poser à Zep?
Quel âge avez-vous quand vous avez sorti votre première BD?
Ça va, Zep? Vous pouvez illustrer?
Ça va, ça va.
Oui, très bien. Une deuxième question. Ah, maintenant, il y a plein de questions. Madame en rouge.
Bonjour, moi j'aimerais savoir quelle importance a le français pour Titeuf?
Ah, très bien. Ça sera notre dessin de conclusion. Vous êtes parfaite. Donc, la question d'Arthur et puis la question sur le français.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
RTBF, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
France Inter.
La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble pour les coups de cœur et les coups de gueule. Cap sur la France avec Grégoire Courtois en plateau ici au Salon du Livre de Montréal. Et un coup de cœur, enfin un peu de douceur chez ce monstre. Grégoire, allez-y.
Moi ça c'est mon prix Goncourt, ça s'appelle Nils d'Alexis Ragugnaud. Alexis Ragugnaud c'est quelqu'un qui vient du polar, mais là c'est pas du tout un polar, même s'il y a énormément de suspense. Vous allez être plongé dans l'immédiate après-guerre en France, dans le monde du théâtre. Il faut savoir que c'est l'épuration, c'est un vrai panier de crabes et il y a tous les gens qui devaient être des collaborateurs et qui ne le sont plus, ceux qui sont devenus résistants. C'est très très passionnant, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, un livre d'ambiance très très fort.
Nils chez Viviane Ami. Merci Grégoire. Jérémy Laniel, vous restez fidèle à vous-même. Voilà un homme intègre et courageux avec un bon coup de gueule.
Oh, c'est un coup de gueule qui passe comme un très beau petit commentaire. Hein. C'est pour les écrivains qui ont une trop grande file en salon. Puis loin de moi de m'en prendre au succès, c'est pas ce que je veux faire, mais et encore loin de moi l'idée d'utiliser l'expression galvaudée dans les petits pour les meilleurs onguents, mais on le sait comment les salons du livre peuvent être une entreprise, malgré le bain de foule, une entreprise incroyablement solitaire pour les écrivains un petit peu moins connus. Donc, à tous ceux qui créent là, des congestions dans les allées là, et les gens qui attendent pendant trois quarts d'heure, pourquoi ne pas quitter la file, aller marcher, aller voir ces auteurs là, qui sont derrière une table. Ils vont vous parler de leurs livres comme de leurs enfants préférés. Vous allez voir un peu de curiosité, ça n'a jamais tué personne, Emmanuel.
Merci, Jérémy. Déborah Damblon pour la Belgique, un coup de gueule sur les prix littéraires, un peu dans le même esprit que Jérémy.
Mais tout à fait dans le même esprit que Jérémy et Emmanuel, parce que les prix littéraires, moi j'ai rien contre les récompenses et surtout rien contre les auteurs qui en profitent. Au contraire, mais dès qu'ils sont là dans les librairies, ben, j'ai l'impression qu'ils occultent tout le reste et que certaines personnes ne voient plus que ces livres-là
et
les autres n'existent plus.
Eh oui, c'est un peu ça, c'est vrai. On termine avec la Suisse et un coup de cœur destiné aux enfants, Dominique Bressoux.
Oui, enfin aux enfants, disons les jeunes et les moins jeunes, parce que ce sont des contes et légendes du Jura français et suisse. C'est 30 histoires fabuleuses qui témoignent de la richesse du patrimoine linguistique jurassien et puis qui sont illustrées de façon superbe. Et avec ça, vous avez déjà un de vos cadeaux de Noël. C'est les contes et légendes du Jura de Aurélie Reusser-Elzingre chez Slatkin.
Vous avez tout dit. Merci Dominique. Avant de partir en Afrique avec Blaise Ndala, auteur qui vit à Ottawa et qui est avec nous ici, on écoute le tout nouveau et génial titre de Da Silva. Voici l'aventure dans la librairie francophone depuis le Salon du Livre de Montréal avec le public de Montréal qui est avec nous et qui nous accompagne jusqu'à la fin de l'émission.
La montre, puisqu'il n'y a rien que dalle qui résiste avec le temps. Je préfère l'aventure à tout. tous les grands discours, les points de suspension, les allées sans retour. Je marche comme l'on crève, puisque tout meurt d'ennui. Je refuse de choisir, je ne compte pas, je vis. Pas de quoi en faire un drame, je respire à plein poumon. Les victoires, les défaites, je préfère l'aventure. Mal, sans le moindre signe, sans le moindre charme, à bord d'une vieille routine, à l'assurance lamentable, un vague souvenir peut devenir un idéal. Et face aux certitudes, jeté à l'emporte-pièce, je suis prêt à payer le prix de mes errances. Et même en petite coupure, qu'importe les points de suture, qu'importe la blessure, je préfère l'aventure. Et si l'on me demande, je rentre après la nuit, quand tout sera éteint.
Emmanuel Da Silva, l'aventure sur ICI Radio-Canada Première, la première de la RTBF, la première de la RTS et sur France Inter. L'auteur de BD suisse, Zep, dessine en direct aujourd'hui dans la librairie francophone autour des questions du public. Une autre question pour la fin de l'émission tout à l'heure, parce que Zep est en train de dessiner en ce moment même. Alors, qu'est-ce que c'est que ce personnage qui tire la langue qu'il est en train de faire ? Une dernière question, madame.
Est-ce que Titeuf connaît le mystère ? Si oui, qu'est-ce que c'est pour lui?
Oh là! En 10 minutes, vous allez y arriver, Zep, oui. Le mystère, c'est bon?
Ouais, c'est bon.
Allez, ok, merci. Merci, madame, très bonne question.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Blaise Ndala est dans la librairie francophone aujourd'hui pour un roman choc. On part en Afrique dans un contexte décadent. Bonjour Blaise Ndala.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Sans capote ni kalachnikov est paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Vous avez grandi en République démocratique du Congo. Après des études de droit en Belgique, vous arrivez en 2007 au Canada. Vous vivez aujourd'hui à Ottawa. Votre roman est très acide, très frontal, parce qu'il pointe du doigt le business de l'humanitaire. Au point que l'un des personnages, un politicien arriviste, déclare qu'il est temps de rentabiliser l'image de la misère.
Absolument. Il s'agit en fait d'un communicant. C'est un peu,
pour ceux
qui ont pu décoder, c'est un peu le Jacques Séguéla de service, hein, qui sert le dictateur local et qui donc, sidéré en fait par cette marchandisation de la pauvreté, de la misère, qui est à profusion dans ce pays imaginaire, qui est la Cocanie, demande aux Africains carrément de prendre la détresse à bras le corps et donc de fructifier cette détresse que tout le monde convoite, que tout le monde met à sa propre sauce, qui pour se faire une virginité et qui pour paraître comme le philanthrope extraordinaire qui distribue un peu le don partout. Ouais.
Alors il y a cette Canadienne qui va produire un film sur les viols commis lors de la guerre civile dans cette région nommée Terre de Confusion. Un film qui va emporter un Oscar à Hollywood. Et là encore, tout est faussé, tout est arrangé.
Tout est arrangé dans ce sens que elle est en fait l'une des rares personnes en Occident à savoir qu'il y a une manipulation. En fait, elle s'est donné beaucoup de liberté avec la vérité. Et cette vérité, ceux qui vont nous la dévoiler, ce sont les deux anciens enfants soldats qui ont participé à ces conflits et qui, après la guerre, donc, sortent leur carnet et nous racontent un peu l'envers du décor de ces films qui a été magnifié, puis oscarisé, et avec d'autres prix, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord.
C'est-à-dire qu'au lieu de combattre la misère aujourd'hui, on en fait des spectacles populaires. C'est ça votre message, Blaise Ndala ?
C'est ça aussi le message. C'est-à-dire que la détresse de gens est utilisée sous une fausse solidarité. En fait, ce que j'appelle dans un néologisme que j'amène, qui est l'égocharité, on se sert soi-même, on se fait une image que l'on veut vendre, parce que dans une société de l'image et dans le monde du showbiz auquel appartient Véronique Kennel, comme Rex Mobetti, le footballeur qui procède pratiquement de même méthode, quand on est dans une mauvaise passe au plan judiciaire ou dans sa carrière, eh bien, on va parfois chercher des causes pseudo-humanitaires pour rebondir.
Donc c'est ça, on en profite en fait, c'est ça que vous voulez dire.
Exactement.
Alors votre roman foisonne de personnages, de situations, les politiciens sont renommés les politiciens. Et il y a une forme d'humour très présente dans ce livre et pourtant vous faites une synthèse des drames de l'Afrique.
C'est une synthèse des drames de l'Afrique dans la mesure où j'ai choisi un pays qui ressemble beaucoup au Congo, qui est donc cette République libre de Kokani, qui se trouve dans la région des Grands Lacs. Mais ces drames-là, il est universel. J'ai fini d'écrire ce roman alors que je me trouvais en Haïti, où je travaillais pour Avocats sans frontières Canada, dont j'étais le chef de mission. Et donc là, j'étais un peu de l'autre côté. Donc à côté des avocats canadiens qui m'accompagnaient et qui travaillaient dans le domaine des droits humains là-bas, j'ai pu voir un peu aussi les habits pas très présentables de l'aide internationale, occidentale, pour ne pas la nommer ainsi. Et j'ai pu voir le cynisme qu'une forme d'aide qui déshumanise ceux qui la reçoivent génère dans le chef des Haïtiens, comme je l'ai vu en Afrique, comme on peut le voir dans d'autres régions du monde. Donc c'est pas vraiment une question africaine, mais partout la détresse est à profusion. Malheureusement, des procédés souvent rétors viennent solliciter notre compassion, alors qu'il suffit de gratter un tout petit peu pour découvrir qu'en fait... On se fout un peu du monde.
C'est un peu ça. Deux libraires ont lu votre roman Blaise Ndala, la Belgique et le Canada. On commence par qui ?
On commence par la Belgique parce que j'y ai vécu quand même.
Oui,
que
c'est vrai. Encore vous beaucoup, avez fait vos études de droit là-bas.
Que j'aime beaucoup là-bas. Oui.
Déborah Damblon est en Belgique. Déborah.
Alors, monsieur Ndala, pour reprendre votre expression, ce roman, j'aurais préféré ne pas le lire. En fait, j'aurais préféré que vous n'ayez pas à l'écrire. Et pourtant, je trouve ça formidable que vous l'ayez fait. Parce qu'il est essentiel parfois d'asséner des grosses claques à notre tranquillité relative et puis de nous forcer à nous plonger dans la part d'ombre d'une certaine réalité. Et vraiment, vous l'avez fait avec brio.
Merci
avec
beaucoup.
Brio.
Merci beaucoup.
La vie de Déborah en Belgique et au Canada, Jérémy Laniel, ici à Montréal. Oh là là, vous me faites peur.
Lorsque j'ai découvert l'écriture de Ndala, j'ai trouvé le même plaisir de l'engager que lorsque j'avais découvert Incoli Jean Boffin à cette même émission.
Ah oui.
Avec Ndala, la langue est un territoire dans lequel peuvent errer les pires atrocités, les pires drames. Reste que pour lui, la littérature sera toujours une célébration.
Vous avez aimé ce roman, alors ?
J'ai adoré ce roman.
Formidable !
Ah,
vous connaissez
voilà.
Incoli Jean Boffin, vous ?
Je connais très très bien Incoli Jean Boffin, que j'appelle mon vieux Jean. Et c'est un auteur que j'adore. Merci beaucoup. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup lire. Et je l'ai rencontré à la foire du livre de Bruxelles au mois d'avril dernier. Je lui ai dit tout le bien que je pensais de ce roman.
Vous avez séduit nos deux libraires. La guerre et la rébellion déraillent dans votre roman, Blaise Ndala. Deviennent, je cite, le toit de la connerie collective, la pagaille dans toute sa splendeur. Les jeunes rebelles finissent par se tuer entre eux. Ils violent aussi toutes les filles qu'ils trouvent. C'est absolument atroce. Et le combat social, le combat politique devient une horreur absolue, comme si rien n'était possible. C'est-à-dire qu'en fait, on peut croire en personne.
On peut croire en personne, sauf quelques exceptions. Et c'est pour ça aussi qu'il y a, une fin, une sortie qui verse un peu dans l'espérance avec la fin heureuse de celui que j'appelle le Petit Che, Corneille, qui vient au Canada et qui se refait finalement, qui fait une nouvelle vie. Mais on le voit aussi à travers de personnages comme ce médecin espagnol Miguel Echegaray, qui malgré toute cette confusion, toute cette trahison et tout ce faux-semblant qui se joue autour de lui, reste comme une sorte de bougie à laquelle se rattache... Petitché, fourmi rouge de son lit d'hôpital. Donc je voulais pas que l'on perde espoir. Je voulais montrer aussi que dans ces mondes-là existent de belles âmes, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches ou autres, qui nous permettent de continuer à croire en l'homme malgré tout.
Mais vous prenez parti pour ces jeunes rebelles. C'est très déstabilisant. Et les vrais méchants, ce sont les organisations internationales, l'ONU, les humanitaires qui les manipulent, en fait.
Il y a tous ces mondes-là.
Et dans le roman, hein, je dis bien. Hein.
Dans le roman, évidemment. Ouais. Je ne sais pas si je prends vraiment leur parti. En tout cas, je leur fais assumer leurs actes, ouais, parce qu'ils ne nient rien. Ils assument pratiquement. Ils disent, nous, on appelait ça chanter l'Angelus, on a tous violé. Qui lèverait son petit doigt en disant qu'il ne l'a pas fait? Ils l'assument. Mais n'oublions pas qu'au moment où ils sont embrigadés, ils sont tous mineurs. Donc, c'est quand même des enfants, avant tout, qui ont été amenés dans un conflit qui le dépassait. Ils le disent, il y a des gens, des grandes personnes qui sont montées sur leurs frêles épaules pour s'accaparer du pouvoir politique. C'est pour ça que je les présente un peu sous cette facette innocente, parce qu'ils ont perdu leur innocence par la guerre, mais ce n'est pas par des choix rationnels qu'ils auraient fait. Et après, effectivement, il y a les politiques, il y a le monde du showbiz et tous ceux qui, derrière, tirent les ficelles de ces conflits, y compris les multinationales.
Sans capote, ni Kalachnikov de Blazendala, que vous pouvez applaudir ici au Salon du Livre de Montréal. C'est aux éditions Mémoire d'Encrier. C'est votre deuxième roman. J'espère que la librairie francophone vous portera chance. Merci Blaise.
Merci à vous de m'avoir invité, c'était un plaisir.
Mais un grand plaisir pour nous aussi. Pendant cet entretien, Zep a illustré trois questions. Oui. Une sur l'âge, sur le français, sur le mystère. Hein, c'était ça, madame.
C'est ça. Alors, vous avez commencé avec quoi?
Bah, comme vous voulez, l'âge, tiens.
Donc à quel âge j'ai commencé à faire de la bande dessinée? Donc c'est ce dessin-là qui n'apparaît pas, voilà, qui apparaît. Donc on voit un spermatozoïde en train de dessiner un petit personnage et un deuxième spermatozoïde qui lui dit « T'es sûr que t'as pas autre chose à faire ?»
Le spermatozoïde qui tient quand même le micro, qui tient le micro, qui tient le crayon, des formations.
C'est assez pratique qu'on ait spermatozoïde.
Ah oui, vous avez été spermatozoïde.
J'ai été spermatozoïde. Mmh,
comme tout le monde. Allez-y.
Sur le mystère.
Le mystère, oui.
Donc est-ce que Titeuf connaît le mystère ? Et ben voilà le mystère pour Titeuf. À son âge, le plus grand mystère, c'est d'essayer de comprendre les filles. Donc il est là face à Nadia, tremblotant, et elle lui dit « Mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ?» Ça reste son grand mystère.
Et on termine avec
la
le
dernière,
français.
Donc c'était sur le français. Je me souviens plus exactement de la formulation de votre question. Donc j'ai dessiné mon personnage qui tient sa langue entre le pouce et l'index et qui dit « Aime bien jouer à la langue.
» Qui dit
quoi ? Ce qui veut dire « J'aime bien jouer avec la langue. »
Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci, Zeb, d'avoir accepté cette idée, cette performance que vous allez renouveler avec les enfants du Salon du Livre ici à Montréal. Vous êtes un vrai fidèle de cette émission. Merci vraiment pour votre confiance et votre amitié. Ça me touche beaucoup.
Merci.
Merci. Pour la première fois à la radio, ça, hein, ce que vous venez de faire.
Ah, première fois à la radio.
Ah, bah voilà. Bon.
Ça ne serait pas venu à l'esprit de le faire à la radio, mais c'est une expérience.
C'est la librairie francophone. Voilà, on tente toutes les expériences. On va publier vos dessins sur ma page Facebook, Emmanuel Kérad, page à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner pour recevoir toutes les infos sur l'émission. Merci à vous, merci au public de Montréal d'être venus si nombreux comme chaque année ici. Merci à vous, merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la montréalaise Sarah Toussaint Léveillé avec un extrait de Pas à Pas.
Hier on plantait des colombes, on en récoltait des soupirs. Puis on s'est embrassé jusqu'à s'en évanouir. Et sur le port de souffle, nous nous sommes réveillés. Le soleil pose sur la rivière de l'humanité. Il y en a qui ont la foi en tous ceux qui les aiment, malgré les routes douteuses où certains les emmènent. Aveugler l'esprit étroit attrape la migraine. Jamais je n'ai rencontré une si douce migraine. Ne pose pas la poésie, m'apprends à te connaître. Nous accrochons nos croyances à toutes les tempêtes pour refaire en entier toute la lumière du monde. Nos racines poussent de la rivière de l'humanité. Pas à pas, pas à pas.
Sarah Toussaint Léveillé, Pas à Pas, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci beaucoup, Robert Charlebois. À très bientôt, Robert.
À bientôt.
À très bientôt. Merci, Zep. Merci, Blazendala. Merci à vous. À la réalisation, Jacqueline Castonguet ici au Canada avec Henri-Marc Mutel en France. Et à la technique, Dominique Baudouin, Martin Massé, Marie-Ève Soutière. Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Elsa Pépin sous la direction de Sylvie Julien ici à Montréal. Vera Louderide, Christophe Magère et Alice Jacquelin en France. Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. La semaine prochaine, nous serons à Radio France Faites le Livre, au cœur de la maison de la radio, à côté de la Tour Eiffel, avec un autre plateau exceptionnel autour de Dany Laferrière. Enregistrement vendredi 24 novembre à 15h en public. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver vos places sur le site de la billetterie de Radio France. Il y aura beaucoup de surprises. Passez une bonne semaine, un bon week-end. À bientôt, salut.